Bonjour, mes frères. Quelle joie! Et vous comprendrez pourquoi je parle de joie. Quelle joie de vous voir tous ici aujourd'hui. Nous avons des visiteurs chez nous, et si j'ai bien compris, peut-être que cela a déjà été mentionné, il y a environ 26 visiteurs ici rien qu'aujourd'hui, et d'autres sont en route, ce qui est très réjouissant. C'est aussi le 4 juillet. Ce qui est formidable. Monsieur et Madame Moore ont une sorte de désaccord chez eux à propos de ce qui s'est passé il y a 250 ans aujourd'hui. Je veux dire, leur mariage a l'air de bien se passer, donc tout va bien. Ils sont arrivés ici sains et saufs. Bienvenue à l'anniversaire des États-Unis d'Amérique, Madame Moore. Et à vous tous qui venez de Grande-Bretagne, je suis ravi de vous voir tous ici. Merci de célébrer cet événement avec nous. D'accord? Je sais que les frères et sœurs écouteront également ce message la semaine prochaine. Pas seulement ici aux États-Unis, mais partout dans le monde. Nous sommes donc aujourd'hui le 4 juillet. C'est un moment assez unique dans l'histoire américaine. Non seulement parce que c'est le 250e anniversaire, mais aussi parce que nous sommes en pleine Coupe du Monde, ce qui est très passionnant pour beaucoup de gens qui, comme moi, ne connaissent pratiquement rien au football. Je veux dire, je sais maintenant ce qu'est un hors-jeu. Non, je plaisante. J'ai un peu joué au foot quand j'étais gamin, donc je connais toutes les règles. C'est juste que je ne suivais pas cela d'aussi près qu'aujourd'hui, vu que la Coupe du Monde bat son plein. Et il s'est passé quelque chose de marrant. Vous avez peut-être vu certaines des vidéos qui circulent sur Internet. Ces Écossais sont complètement déchaînés à Boston. Combien d'entre vous ont vu ces Écossais en kilt, avec leurs cornemuses, et par groupe de 20 000, 30 000, 40 000, débarquer à Boston pour vider les bars de leur stock? C'était un spectacle à ne pas manquer. Je ne sais pas s'ils sont encore là-bas. Je pense qu'ils sont peut-être partis à Miami, ou qu'ils sont peut-être rentrés chez eux. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi cela d'assez près. Mais je sais que les gens ont été stupéfaits. Et en tant qu'Américain, on ne suit pas le foot de très près ici. La plupart d'entre nous ne le suivent pas, mais il y a eu quelqu'un qui a croisé un Écossais dans un bar de Boston et qui lui a demandé: « Qu'est-ce que tu fais ici? » Et l'Écossais a répondu: « Comment cela? La Coupe du Monde est là. » Et on s'est dit: « C'est quoi, la Coupe du Monde? » Tu vois. Je ne savais pas que cela avait lieu tous les 4 ans. C'est donc un événement majeur. C'est un événement majeur sur la scène mondiale. Il y avait un homme intéressant. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Cela m'aidera à bien introduire mon message. C'est un Japonais. Alors, monsieur Lydic, veuillez me pardonner, ainsi qu'à ma femme, qui est pour un quart japonais, pour ma tentative d'imiter l'accent japonais ici. On lui a posé une question. Il était interviewé par une journaliste, et il a répondu: « Je m'appelle Hiroshi Nagasaki. » Et il était très, très enthousiaste d'être ici, aux États-Unis. C'était formidable. Dans cette vidéo, mes amis, si vous avez l'occasion de voir cet homme, vous verrez qu'il est tout excité. Il a dit: « Excusez-moi, excusez-moi. » Il a ajouté: « Je dois vous dire que je suis tout excité. » C'est ce qu'il a dit. Il est très enthousiaste d'être ici, aux États-Unis d'Amérique. Et peut-être avez-vous vu certaines de ces vidéos de personnes venues aux États-Unis, qui sont tout simplement époustouflées. Peut-être que certains d'entre vous qui ne sont jamais allés aux États-Unis verront un Kosciuszko ou un Bukis. À ma connaissance, il n'y a pas de Bukis par ici, mais on voit certains de ces endroits, même un Walmart. L'amie japonaise de ma femme a été complètement époustouflée par Walmart. Du coup, chaque fois qu'elle vient aux États-Unis, elle ramène chez elle toutes sortes de petites choses trouvées chez Walmart. Mais il y a beaucoup de joie. Nous voyons et vivons beaucoup de joie à l'occasion du 250e anniversaire des États-Unis, sans compter que la Coupe du Monde se déroule ici. Ouvrez votre Bible à Jean chapitre 15. Monsieur Liddick a fait une annonce aujourd'hui concernant les personnes qui toussent et qui occupent l'allée, etc. Et je vais peut-être devoir m'absenter à plusieurs reprises, car je me remets d'un petit coup de rhume que j'ai attrapé il y a quelques semaines, et il ne me reste plus qu'une toux persistante. Alors, excusez-moi. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Nous ne devons pas seulement avoir de la joie, nous devons avoir une joie pleine. On pourrait dire que, comment s'appelait-il déjà? Hiroshi Nagakake avait presque une joie pleine ce jour-là. D'accord. Nous sommes censés connaître une joie pleine. Jean 16, juste un chapitre plus loin, verset 22, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. Ajoutons donc cela ici. Vous pourriez écrire à côté de Jean 15, vous pouvez simplement indiquer la plénitude de la joie. C'est ce que nous sommes censés avoir. Maintenant, vous pouvez ajouter qu'en plus de la plénitude de la joie, nous sommes censés avoir une joie que personne ne peut vous enlever. Quelqu'un peut-il vous enlever votre joie? C'est le genre de joie que nous sommes censés connaître. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Lisez simplement un verset, très court. Le verset 16. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, contient deux mots, réjouissez-vous toujours. Ainsi, en plus d'avoir la plénitude de la joie que personne ne peut vous enlever, vous êtes censé la posséder pour toujours. Ésaïe 51, verset 11. Pas besoin d'y revenir, mais vous pouvez le noter dans vos notes. Ajoute à cela est dit que ce genre de joie est censé être éternel. C'est donc pour toujours, c'est une joie pour toujours, une joie éternelle, et Ésaïe 65, verset 18, dit que la joie que nous sommes censés avoir est éternelle. D'accord. Est-ce là le genre de joie que nous voyons à travers la Coupe du Monde, le genre de joie que nous voyons ici à l'occasion du 250e anniversaire des États-Unis? Il y a beaucoup de joie partout, cela ne fait aucun doute. Mais je vais poser la question, ont-ils ce genre de joie? Quel genre de joie vivent-ils? À certains égards, c'est une joie éphémère. Pensez à cet homme venu du Japon, ou à tous ces Écossais qui sont venus ici, ou encore à ceux des Pays-Bas. Ils sont venus ici et ils passent un bon moment. Ils débordent de joie, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, campeurs et membres du personnel présents ici, allez connaître beaucoup de joie au cours des 2 prochaines semaines, ce qui est incroyable et merveilleux. Mais cet homme venu du Japon a-t-il connu une joie éternelle? Il est peut-être déjà rentré chez lui. Je crois que le Japon a peut-être été éliminé du tournoi. Alors, cette joie qu'il a éprouvée à ce moment-là, qui était une vraie joie, cela ne fait aucun doute, a-t-elle duré pour toujours? Était-ce une joie que personne ne pouvait lui enlever? C'est peut-être vrai pour lui à cet égard. Personne ne pouvait lui enlever sa joie à ce moment-là, mais elle n'a certainement pas duré pour toujours. Nous commençons donc à percevoir un léger écart entre la joie que nous voyons dans le monde et celle que Dieu nous demande d'éprouver. À première vue, on pourrait penser que la joie, c'est la joie, n'est-ce pas? On est heureux, on est enthousiaste, ou passionnant, comme l'a dit cet homme. Mais la joie n'est pas simplement la joie. La joie du monde n'est pas nécessairement celle que Dieu nous demande de vivre, celle qu'il souhaite et dont il a besoin que nous fassions l'expérience. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. Ajoutons à cela d'autres aspects de la joie. Le verset 2 dit ceci, « En effet, au milieu d'une grande épreuve et d'une grande affliction, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 2, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont débouché sur la richesse de leur générosité. L'abondance de leur joie, cette joie abondante signifie ici un surplus, comme si l'on avait un surplus de joie, et cela peut aussi signifier une joie surabondante. Avez-vous une joie pleine que nul ne peut vous enlever, qui dure pour toujours, et qui est considérée comme un surplus ou une joie surabondante par nature? Nous commençons à voir un fossé se creuser. Le fossé ne cesse de se creuser, de plus en plus, entre la joie du monde et la joie que Dieu attend de nous. 1 Pierre 1, 8. Un dernier verset qui pose les bases du message. 1 Pierre 1, 8. Mettons la cerise sur le gâteau. Voyons s'il est possible que la joie dont nous allons parler puisse être vécue dans ce monde. 1 Pierre 1, 8 dit ceci, vous l'aimez sans l'avoir vu, en parlant du Christ, et, bien que vous ne le voyiez pas maintenant, vous croyez en lui et vous vous réjouissez d'une joie indicible et glorieuse. Une joie indicible, une joie qui vous coupe presque le souffle. Vous êtes tellement enthousiaste. C'est une joie difficile à décrire, justement parce qu'elle est indicible. C'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu à certaines occasions, lorsque je suis tellement enthousiaste, tellement heureux, tellement joyeux que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment? Vous êtes tout simplement tellement enthousiaste, oh, je suis tellement ravi, quelle qu'en soit la raison. Vous le ressentez dans votre cœur. C'est indicible. Personne ne peut vivre cela à votre place. Vous devez en faire l'expérience vous-même. Alors, comment atteindre cette joie dont nous parlons aujourd'hui? Ce genre de joie qui est pleine. Elle n'est pas presque pleine comme ce verre d'eau. Elle monte jusqu'au bord. Et avec le ménisque, elle pourrait même déborder un peu comme cela, avec un petit renflement au-dessus du niveau de l'eau, au-dessus du bord du verre. C'est à ce point que notre joie devrait être pleine. C'est une joie que nul ne peut vous enlever. C'est une joie qui dure pour toujours, pas temporairement, pas seulement pendant la Coupe du Monde ou le 4 juillet. Elle est abondante. Elle est en surplus. Et, mes frères, elle est indicible. Comment y parvenir? Parce que Dieu dit que c'est possible. C'est quelque chose que nous devrions posséder. Dieu ne l'aurait donc pas inscrit dans sa parole s'il nous était impossible d'y parvenir. Nous devons être capables d'atteindre ce genre de joie. Or, j'ai vu une vidéo montrant des visiteurs sud-africains, venus pour la Coupe du Monde, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu aussi, qui étaient émerveillés alors qu'ils se promenaient dans un parc. Et j'ai pu le confirmer, une Sud-Africaine séjourne chez nous pour le camp, hier, aujourd'hui et jusqu'à demain. Et elle l'a confirmé. Peut-être que les Sud-Africains peuvent le confirmer. Ce n'est peut-être pas vrai pour toute l'Afrique du Sud, mais c'était certainement l'expérience vécue par cette personne qui filmait et se promenait dans le parc. Il a dit qu'il était stupéfait par ce qu'il voyait. C'était juste un parc ordinaire, probablement à Washington, DC, je crois, et il a fait un panoramique sur des femmes qui marchaient seules dans la rue. Ici, aux États-Unis, on n'y prête pas vraiment attention. Bien sûr, il y a certains endroits aux États-Unis où on ne voudrait pas faire cela, c'est certain. Mais en général, Ici à Outsworth, ce n'est pas grave si une femme va courir ou se promène. Ce n'est pas grave. On ne court aucun danger. Cet homme s'étonnait de voir une femme se promener seule dans un parc. Puis il a balayé la scène du regard et s'est exclamé « Oh là là, regardez ce banc. Juste un banc de parc. Il n'y a pas de sans-abri dessus, ni personne en train de se faire violer. » Il était sous le choc. Oh, et en voilà un autre banc. Il n'y a personne dessus. Et regardez, un écureuil vient de passer en courant. Le fait qu'il y ait des écureuils et qu'ils ne soient pas en train de se faire manger l'étonnait énormément. Pour nous, aux États-Unis, c'est un concept étranger, littéralement étranger. Personne ici ne se dit, tiens, je me demande pourquoi il n'y a pas d'écureuils. C'est probablement parce qu'on les mange. On ne pense pas cela aux États-Unis. Mais en Afrique du Sud, on ne pense qu'à cela. Encore une fois, il y a probablement des endroits où ce n'est pas le cas. Je ne dis pas cela pour donner carte blanche. Mais là d'où venait cette personne, en Afrique du Sud, c'était son expérience. Or, il avait des attentes très différentes de celles des Américains. Aux États-Unis, nous constatons qu'en raison de la canicule qui a récemment frappé l'Europe également, il y a beaucoup de problèmes de climatisation, et les gens sont en ébullition parce qu'il n'y a pas de climatisation en Europe comme il y en a ici aux États-Unis. Il y a donc toutes sortes de problèmes, mais c'est leur vie. Ils ne s'attendent pas à avoir la climatisation. Ce n'est qu'après être venus aux États-Unis et avoir vu la climatisation en action qu'ils ont commencé à dire, « Tu sais quoi, nous aussi, on a besoin de la climatisation. » Les attentes des gens varient selon leur mode de vie. Vos attentes sont différentes si vous vivez en Namibie, en Australie ou aux Philippines. Chacun a des attentes différentes quant à ce à quoi il devrait avoir droit dans la vie. Ici, en Amérique, où l'on célèbre le 250e anniversaire, nous avons de nombreuses attentes, car la Déclaration d'indépendance nous a donné beaucoup de libertés, des droits inaliénables qui nous sont garantis. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Vous en avez entendu parler. Nous avons certaines attentes que d'autres nations n'ont peut-être pas. Nous plaçons la barre très haut, ce qui, je vais vous le dire tout de suite, n'est pas forcément une bonne chose. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Philippiens, chapitre 4. Parce que nous plaçons la barre très haut dans la vie, et c'est là le premier point que nous allons aborder, je ne veux pas simplement le lâcher comme cela. Mais le fait de voir toutes ces nations affluer vers les États-Unis nous a permis de comprendre que chacun a des attentes différentes dans la vie. Et se pourrait-il que nous, ici aux États-Unis, ou plutôt que nous tous à travers le monde, placions la barre trop haut? Philippiens chapitre 4. Permettez-moi donc de m'y reporter. Philippiens chapitre 4, verset 9. Il est écrit: ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Mais je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que, enfin, votre sollicitude à mon égard a repris de plus belle. Vous y aviez déjà pris soin de moi, mais l'occasion vous en avait manqué. Passons au verset 11. Or, si je parle de privation, c'est que j'ai appris, quelle que soit ma situation, dit Paul, à m'en contenter. Se contenter. Je sais vivre dans l'humilité, et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre dans l'abondance et à connaître le besoin. Et s'il en était capable, c'est parce qu'il disait: je peux tout par Christ qui me fortifie. Ce qui signifie qu'il peut se contenter de tout. Il a appris à se contenter. Se contenter de la vie n'est pas une capacité innée. Nous sommes par nature des gens insatisfaits. Vous connaissez l'expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ». C'est toujours mieux ailleurs. Vous connaissez bien les Américains, si nous allions en Europe, nous dirions probablement « pourquoi n'avons-nous pas tout cela en Europe ?» Parce que nous sommes, par nature, des êtres insatisfaits. Les êtres humains possèdent ce qu'on appelle la nature humaine. Et la nature humaine n'est pas, disons simplement qu'elle comporte de nombreux problèmes. Et l'un de ces problèmes, c'est le mécontentement. En réalité, nous aimons être mécontents. Nous n'aimons pas être satisfaits. Nous voulons avoir des raisons de râler, de nous énerver. Et cela nous amène au premier point qui nous aidera à atteindre le genre de joie avec lequel nous avons commencé ce sermon, le contentement. Si vous voulez connaître le genre de joie avec lequel nous avons commencé ce message, nous devons apprendre à nous contenter de tout. À l'instar de Paul, soyez rassasiés et affamés, dans l'abondance et dans le besoin. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons nous en contenter. Cela fait suite à ce que Paul a dit au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ainsi, le concept et l'idée de joie ont préparé le terrain pour la description que fait Paul du contentement. Il dit donc en substance, si vous voulez vous réjouir dans la vie, si vous voulez la joie, l'un des chemins vers cette joie est le contentement. La joie est le fruit du contentement. Réfléchissez-y. Si vous êtes satisfait de tout ce que vous avez dans la vie, rien ne vous contrarie. Vous ne vous inquiétez de rien. Vous n'êtes pas stressé par tout ce qui vous entoure. Vous êtes simplement satisfait. Et grâce à cela, la porte s'ouvre à la joie. Vous pouvez connaître la paix et la joie si vous êtes satisfait. La définition du mot « content » dans le dictionnaire Merriam-Webster est « sentiment éprouvé lorsque ses souhaits ou ses attentes sont comblés ». Laissez-moi répéter cela plus lentement. La définition de la satisfaction est « sentiment éprouvé lorsque ses souhaits ou ses attentes sont comblés ». Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si nous sommes mécontents, par définition, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons placé la barre trop haut dans la vie pour diverses choses, quelles que soient les attentes que nous puissions avoir. Disons que mon attente dans la vie est de ressentir le besoin d'avoir la climatisation chez moi. Si je n'ai pas de climatisation, alors je vais m'effondrer. D'accord? Si je me fixe cette attente et que je perds ma climatisation, je vais naturellement devenir mécontent. Mais si je ne m'attends pas à avoir la climatisation dans ma vie et que je l'obtiens, waouh, j'éprouve de la joie. Il y a de la joie là-dedans. C'est merveilleux. Le contentement commence par fixer des attentes modestes. Maintenant, de quoi Dieu dit-il que nous devrions nous contenter? Je vais revenir sur ces droits inaliénables. La liberté, c'était cela? On pourrait dire que c'est un sujet un peu controversé. Je ne pense pas que ce soit un sujet de débat controversé, mais la liberté est-elle vraiment considérée comme un droit inaliénable par Dieu? Dieu a parlé à maintes reprises de l'esclavage, dans l'Antiquité. Certes, les maîtres d'esclaves de l'époque étaient mauvais, mais ouvrons 1 Timothée chapitre 6. Regardez cela. 1 Timothée chapitre 6. Nous sommes sur le point d'établir la norme quant à ce que devraient être nos attentes dans la vie. La première épître à Timothée, chapitre 6, verset 1, dit ceci, que tous les serviteurs qui sont sous le joug, nous parlons ici de personnes qui sont serviteurs sous le fardeau, le joug, de leur maître, les tiennent pour dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés. Même les serviteurs, Les esclaves d'autrui devaient se contenter de leur sort. Ils devaient tenir leur maître en haute estime. C'est cela qui touche vraiment au cœur, c'est ce qui va vous interpeller, et ceux qui ont des maîtres croyants, attendez un instant, nous parlons ici de frères au sein de l'Église de Dieu, à travers les millénaires, qui étaient au service d'autres frères, esclaves d'autres frères, qui ne les méprisent pas, car ce sont des frères, mais qui ne les servent plutôt, car ce sont des participants fidèles et bien-aimés à la grâce. Enseignez et exhortez ces choses. Donc, si Dieu dit que l'esclavage a en quelque sorte été un mode de vie pendant des milliers d'années, les États-Unis ont été le premier pays à vraiment y mettre fin, et cela présente de nombreux avantages. Mais du point de vue de Dieu, il a dit que l'esclavage n'était en quelque sorte qu'un mode de vie, regrettable à certains égards, mais c'était ainsi. Même dans l'esclavage, dit Dieu, si tu es un serviteur sous contrat auprès d'un des frères, tu dois le traiter avec tout l'honneur qui lui est dû, et tu dois t'en contenter. Continuons notre lecture. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se conforme pas aux paroles saines, c'est-à-dire aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine conforme à sa piété, c'est qu'il est orgueilleux, qu'il ne sait rien, et qu'il se perd dans des questions et des querelles de mots. Si une personne n'est pas disposée à se soumettre à son maître, et il n'est pas nécessaire de parler d'un maître d'esclave, on pourrait tout aussi bien parler de votre responsable au travail. Mettons cela dans un contexte plus moderne. On pourrait parler de personnes qui ont autorité sur vous dans divers domaines de la vie. Cela peut être un enseignant, un professeur, un responsable, un patron, peu importe. Si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à eux et à les tenir en haute estime, même s'ils ne sont pas nécessairement bons, voire s'ils se montrent mauvais envers nous, Dieu dit que nous devons quand même nous en contenter. Verset 5. Les disputes perverses d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui supposent que la piété est un moyen de gain. Éloigne-toi de cela, éloigne-toi des frères qui ne se contentent pas de la place qu'ils occupent dans la vie. S'éloigner, c'est une chose étonnante. Mais voici le verset, la piété accompagnée du contentement, dans le contexte ci-dessus, est un grand gain. Si nous sommes satisfaits dans les pires circonstances, même si nous étions réduits en esclavage, nous devons être pieux et nous devons nous contenter de ce que nous avons. Dieu veut que nous soyons satisfaits. Passons donc à notre époque. Nous ne voyons plus d'esclavage, du moins aux États-Unis, ce n'est plus le cas. Nous avons donc placé la barre plus haut aujourd'hui. Nous croyons que cette liberté nous a été donnée, mais Dieu dit, non, non, non. Votre attente devrait être la suivante, même si vous étiez réduit en esclavage, vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Ainsi, quelles que soient les épreuves que nous traversons dans nos vies, mes frères, aussi difficiles que puissent nous paraître nos épreuves en ce moment, elles ne sont rien comparées à l'esclavage, en particulier sous l'autorité d'une personne malveillante. Et Dieu dit que nous devrions nous contenter même dans cette situation, même dans ces circonstances. Le contentement est indispensable si nous voulons connaître la joie. Une personne asservie à autrui n'a aucun espoir de connaître la joie si elle ne parvient pas à trouver au moins un moyen de se contenter de la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle ne fait que regarder autour d'elle tout ce qui va mal autour de moi, j'ai un mauvais maître, je vis dans de mauvaises conditions, alors elle ne connaîtra jamais, jamais la joie. Mais si elle y trouve la satisfaction, elle peut alors commencer à ouvrir la porte à ce genre de joie dont parle Dieu. Aujourd'hui donc, continuons notre lecture au verset 6, 7, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous n'en emporterons rien. Nous n'avons rien gagné de ce que nous possédons dans cette vie. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et voici la norme selon laquelle nous devons nous contenter, ayant de quoi manger et de quoi nous vêtir, contentons-nous de cela. Sommes-nous, frères, satisfaits du strict nécessaire dans la vie? Si nous avons le ventre plein chaque jour, si nous avons peut-être un toit au-dessus de notre tête, si nous avons des vêtements à porter, nous devrions en être reconnaissants, en être heureux. Honnêtement, contentons-nous simplement de cela. Tout le reste est un bonus. Ainsi, toutes ces autres choses que nous possédons dans la vie, croyez-moi, mes frères, nous avons bien plus que simplement de quoi manger et nous vêtir. Nous devrions être plus que joyeux d'avoir ces choses. Paul n'avait pas ces choses lorsqu'il a été dépouillé, qu'il a été battu et qu'il a dû faire face à toutes ces épreuves dans sa vie. Nous avons tellement plus que de quoi manger et nous vêtir. Notre Dieu, par conséquent, devrait être à la hauteur de cela. Nous devrions avoir d'autant plus de joie en plus de, nous ne devrions pas être mécontents. De quoi devrions-nous être mécontents dans la vie, sachant que nous avons tellement plus que de quoi manger et nous vêtir, ce que Dieu a fixé comme norme? Nous n'avons aucune excuse pour être mécontents. Nous avions donc toutes les raisons d'être les personnes les plus heureuses sur terre, car la plupart des gens ne considèrent pas la Bible sous cet angle. La plupart des gens ne se penchent pas sur la parole de Dieu en se disant « Je veux avoir la joie qu'il a. Comment puis-je la recevoir ?» Nous pouvons avoir cette joie, et nous devrions l'avoir. Et, espérons-le, notre état d'esprit a désormais changé quant à ce que nous avons dans la vie, à quel point nous sommes privilégiés et à quel point nous sommes bénis. Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Si nous suivons le mode de vie de Dieu, les vérités que nous possédons, la capacité d'être appelés hors de ce monde et de savoir que nous pourrons régner aux côtés de Dieu en Christ, cela n'a pas de prix, mes frères. Personne d'autre n'a cela. Personne d'autre. L'Ecclésiaste, chapitre 7. Ainsi, lorsque nous lisons ici, dans l'Ecclésiaste chapitre 7, un verset très familier, le verset 14, c'est un commandement. Ce n'est pas l'un des 10, disons-le, mais il ne fait aucun doute que c'est un commandement. Considérez-le comme tel. Ne le considérez pas simplement comme une chose agréable et merveilleuse dont nous pouvons profiter. Non, non, non. Dieu dit, au jour de la prospérité, réjouis-toi, mais au jour de l'adversité, réfléchis. Donc, si quelqu'un est constamment, je pourrais parler de moi-même, croyez-moi, mes frères, j'ai connu le mécontentement dans ma vie. Je m'efforce d'apprendre à être plus satisfait de tout ce que j'ai. Si nous sommes dans les jours de prospérité, nous ferions mieux de reconnaître que nous sommes dans les jours de prospérité. Mais si nous regardons constamment autour de nous et que nous voyons le verre à moitié vide dans la vie, je n'aime pas ceci à propos d'eux, vous êtes peut-être dans un temps de prospérité, mais vous ne voyez toujours que tout ce qui ne va pas autour de vous. Vous pouvez penser que vous êtes dans un temps d'adversité, ou vous mettre dans cet état d'esprit en pensant que c'est de l'adversité, mais en réalité, vous êtes toujours dans un temps de prospérité. Et puis, vous savez quoi, mes frères et sœurs? Savez-vous ce que vous ne pourrez pas faire si vous pensez traverser une période d'adversité alors que vous êtes en réalité dans la prospérité? Vous ne pourrez pas éprouver de la joie. Or, Dieu vous l'ordonne. Il dit, dans les jours de prospérité, réjouissez-vous, soyez dans la joie, trouvez le moyen de vous réjouir de ce que vous vivez. Le fait que Dieu vous ait accordé ce répit. Vous traversez peut-être encore des épreuves. Cela ne veut pas dire que la vie sera un long fleuve tranquille. Ce sera difficile, mais il y a des moments où vous pouvez repenser à votre vie et aux périodes où vous avez traversé de véritables épreuves. Bon, Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Mais si nous ne sommes jamais satisfaits dans la vie, cela devrait nous alerter et nous faire prendre conscience, tu sais quoi? Je ne suis peut-être pas satisfait. Je place peut-être la barre trop haut dans ma vie. Je devrais simplement être plus reconnaissant pour tout ce que j'ai, pour les bénédictions que Dieu m'a accordées. Plutôt que de penser à toutes les choses négatives auxquelles je suis confronté dans la vie. Je devrais être joyeux. Et pour cela, il faut être satisfait. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Revenons à ce chapitre, nous allons relire le verset 16, « Réjouissez-vous toujours ». Mais deux versets plus loin, que dit-on? Cela nous aide à comprendre comment nous pouvons nous réjouir toujours. Le verset 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses ». Être satisfait, c'est en partie être reconnaissant pour ce que l'on a. Si vous avez beaucoup et que vous êtes toujours insatisfait, c'est simplement que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez. Dieu nous a immensément bénis. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Et si vous faites cela, si vous prenez cela à cœur, et si nous sommes reconnaissants pour les bénédictions qui nous ont été accordées dans la vie, nous pourrons plus facilement mettre en pratique le verset 16, nous réjouir toujours, car nous sommes toujours reconnaissants. Nous sommes toujours satisfaits. Nous sommes toujours heureux de ce que nous avons. Même si tout n'est pas parfait. Souvenez-vous de cette norme que Dieu a fixée, la nourriture et le vêtement. Si nous avons plus que cela, nous n'avons aucune raison d'être mécontents dans la vie. Aucune raison. Nous avons bien plus que de quoi manger et nous vêtir. Et pour toutes ces choses que nous possédons, y compris la nourriture et les vêtements, d'ailleurs, nous devrions être reconnaissants pour tout cela. Et si nous le sommes, nous serons heureux. Nous serons joyeux. Le genre de joie que la coupe du monde n'apporte pas. La coupe du monde n'apporte pas ce genre de joie. Si nous trouvons le contentement dans la vie, cela apporte la joie, la vraie joie, la joie éternelle, la joie pleine, le genre de joie que nul ne peut vous enlever. C'est pourquoi nous devons nous contenter de ce que nous avons. Passons simplement en revue encore quelques versets dans les Proverbes. Proverbes chapitre 15. Un dans les Proverbes, puis un dans les Psaumes. Proverbes chapitre 15, verset 15. Tous les jours de l'affligé sont mauvais. Mais celui qui a le cœur joyeux, quelqu'un qui est joyeux, celui qui a le cœur joyeux est en fait continuellement. En fait continuellement. Maintenant, souvenez-vous, nous venons d'en parler en termes de joie. Si vous avez le cœur joyeux, vous serez constamment en fête. Vous serez constamment heureux. C'est comme si vous étiez tout le temps à un festin si vous possédez ce genre de joie. Mais comment atteindre cette joie? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor accompagné de tourments. Mieux vaut un repas d'herbe où règne l'amour qu'un bœuf engraissé accompagné de haine. Sommes-nous satisfaits de ce que nous avons dans la vie? Si nous le sommes, la joie en découle naturellement. C'est très simple. Rappelez-vous simplement, mes frères, que si nous voulons être satisfaits, cela nous apportera la joie que nous recherchions. Psaume 90, un dernier verset dans cette section. Psaume 90, verset 14. Il s'agit d'une prière de Moïse. On ne considère généralement pas les psaumes comme des prières de Moïse, mais celui-ci l'est, tel qu'il nous est rapporté, prière de Moïse, l'homme de Dieu. Le psaume 90, verset 14, dit « Oh, rassasiez-nous, rassasiez ». Que signifie « rassasiez » ? Si vous êtes rassasié dans la vie, vous êtes satisfait. Moïse dit donc, aide-nous à être satisfaits. Aide-nous à être satisfaits dès le matin par tes miséricordes, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons dans l'allégresse tous les jours de notre vie. Si nous sommes rassasiés, si nous sommes satisfaits dans la vie, la joie viendra, et nous nous réjouirons tous les jours de notre vie. Quelle promesse extraordinaire! Vous pouvez en être sûrs, mes frères et sœurs. Mais cela commence par modérer nos attentes. Si nous prenons conscience de tout ce que Dieu a dit que nous devrions attendre de la vie, ce que l'on pourrait appeler nos droits inaliénables sont la nourriture et le vêtement. C'est ce que dit Dieu. Au-delà de cela, c'est un surcroît. Les bénédictions s'accumulent. Pour tout ce qui va au-delà, nous devrions simplement en être reconnaissants. Nous pouvons être reconnaissants pour la déclaration d'indépendance. Nous pouvons être reconnaissants pour toutes ces libertés qui nous ont été accordées, que le gouvernement nous accorde dans ce monde. Quelle bénédiction, et tout ce que nous avons en plus de cela. Mais cela commence par le contentement. D'accord. Ouvrez vos Bibles au chapitre 20 des Actes. Nous allons aborder notre deuxième point. Un autre verset très connu, Acte 20, verset 35, dit ceci, « Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en travaillant de la sorte, il faut soutenir les faibles et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Une expression très courante. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est vrai? Analysons cela de près. Pourquoi est-ce vrai? Nous savons que c'est vrai. C'est écrit dans la Bible, mais pourquoi est-il vrai qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? L'une des grandes bénédictions qui découle du don, si donner procure plus de bonheur que recevoir, nous savons que recevoir des choses est une grande bénédiction. Au fil des années, nous avons reçu beaucoup de choses merveilleuses pour nos filles. Les grands-parents nous ont offert des cadeaux. C'est une merveilleuse bénédiction. Mais, c'est en réalité davantage une bénédiction pour les grands-parents qui ont offert ces choses que pour mes filles qui les ont reçues. Mais pourquoi? Pourquoi est-il plus béni de donner que de recevoir? L'une des grandes bénédictions qui découle du don, c'est la joie. Revenons à la joie, car c'est elle qui est au cœur de notre propos. C'est la joie que l'on ressent après avoir fait quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Si mes parents ou les parents de ma femme sont plus bénis que mes filles lorsqu'elles reçoivent des cadeaux, des petites peluches ou quoi que ce soit d'autre, c'est parce que cela procure à mes parents et à mes beaux-parents une grande joie de le faire. C'est le genre de joie que nous voulons ressentir. C'est une joie désintéressée. Certaines des plus grandes joies que j'ai éprouvées viennent du fait de voir d'autres personnes s'enthousiasmer et éprouver elles-mêmes de la joie. Faire des choses pour mes filles et voir la joie sur leur visage leur apporte plus de joie que si je sortais pour faire quelque chose pour moi-même. J'en suis arrivé au point où j'ai envie d'emmener mes filles. Enfin, Elena est assez grande, mais Kali est si petite qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle est juste là, tu vois, à marcher. Mais Elena est assez grande maintenant pour qu'on puisse vraiment voir la joie sur son visage. Kali arrive peu à peu, tu sais, tu peux la chatouiller et elle s'enthousiasme, mais ce n'est pas le même genre de joie. Je suis ravi quand je vois Elena ravie parce qu'on va au parc, parce qu'on va faire quelque chose de spécial. On achète une glace ici pop ou quelque chose comme cela. Pas besoin que ce soit sophistiqué, mais c'est davantage une bénédiction pour moi, car je ressens toute cette joie simplement en voyant le plaisir qu'elle y prend. C'est en partie pour cela qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, je vais vous dire une chose, égoïstement, en tant que papa, j'ai un enfant qui sommeille en moi. D'accord? Peut-être que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous, je vais prendre l'excuse d'aller à la piscine parce que, oh, Elena veut y aller. Ce n'est pas moi. Mais moi aussi, j'en profite pour aller à la piscine, d'accord. Je me dis, oh, ma fille, elle, chérie, je m'adresse à ma femme, Malissa, Elena dit qu'elle veut aller jouer au golf. Je veux la voir ressentir cette joie, d'accord? Ce n'est pas pour moi. C'est pour son bonheur. D'accord. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'égoïsme là-dedans, mais blague à part, certaines des plus grandes joies que nous pouvons éprouver dans la vie viennent du fait que nous faisons des choses pour les autres. Nous sommes altruistes. Nous agissons de manière altruiste. Ouvrez vos Bibles au chapitre 15 des Actes, quelques chapitres en arrière. Commençons au verset 1, acte 15. 1. Certains hommes, venus de Judée, enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Il y eut donc cette controverse, cette dissension. C'est pourquoi Paul et Barnabas eurent une dissension non négligeable, ils discutèrent avec eux. Ils décidèrent que Paul, Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Ils devaient donc se rendre à Jérusalem pour discuter de cette question, car il y avait une dissension parmi eux. Le verset 3, cependant, est la clé. Ils se trouvent donc à Jérusalem. Et, accompagnés par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, si c'est ainsi qu'on le prononce, et la Samarie, annonçant la conversion des païens, et ils procurèrent une grande joie à tous les frères. Ainsi, lorsqu'ils traversèrent ces villes en route vers Jérusalem, ils virent la conversion de tous ces gens, et les frères s'en réjouirent, non pas parce qu'ils étaient eux-mêmes ceux qui passaient sous l'eau. Ils avaient été baptisés et auraient eu leur propre joie grâce à leur baptême également, mais ils s'en réjouissaient à cause de la conversion d'autres personnes. Combien d'entre nous sont enthousiasmés lorsqu'ils voient un nouveau membre baptisé rejoindre l'Église? Tout le monde devrait lever la main, car c'est passionnant au-delà de toute imagination. C'est un siège de plus qui se remplit. C'est une couronne de plus qui est remportée, si l'on peut s'exprimer ainsi. Tant que nous restons fermes, tant que nous sommes satisfaits, tant que nous avons de la joie, et tant que nous sommes altruistes. C'était une parole empreinte d'altruisme. Elle n'avait pas besoin d'être consignée dans la Bible, mais elle l'est. Pourquoi cela est-il consigné dans les Écritures pour nous? Afin que nous puissions apprendre à nous réjouir et à éprouver de la joie par l'altruisme, en pensant aux autres. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 12. C'est cela, l'altruisme, mes frères. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des personnes altruistes. Nous pensons tous aux autres. Nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes. Nous ne pensons pas seulement à nos propres besoins ou à nos propres désirs. Nous pensons aux besoins des autres. Et lorsqu'ils traversent des épreuves, nous pensons à eux. Nous prions pour eux. Ainsi, ils ne traversent pas ces épreuves seuls. C'est là un état d'esprit altruiste. Mais nous ne nous contentons pas de souffrir avec ceux qui traversent des épreuves. Lorsqu'un membre est honoré, tous les membres s'en réjouissent. La joie s'installe. Quand quelqu'un obtient une augmentation, j'ai justement appris récemment qu'un pasteur avait retrouvé un emploi après l'avoir perdu pour une raison quelconque. Lorsqu'il a retrouvé son poste, les prières ont été exaucées, et tous les membres de la congrégation étaient ravis. J'étais moi-même ravi. Cela m'a procuré une grande joie d'apprendre qu'il avait trouvé un emploi. Lorsqu'un membre souffre, Tout le monde souffre avec lui. Lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent, car nous menons une vie altruiste. Même le jour du sabbat, alors que nous sommes ici le jour du sabbat, il nous est ordonné de ne pas faire ce qui nous plaît ce jour-là. Mais pourquoi donc? Pourquoi nous est-il ordonné de ne pas faire ce qui nous plaît? Parce que Dieu sait qu'en réalité, en ne faisant pas ce qui nous plaît, ce que nous voulons, nous nous disons, quand le sabbat sera terminé, je veux aller faire ceci, cela ou encore autre chose, parce que cela me fait plaisir. Dieu dit de ne pas faire ce qui nous plaît le jour du sabbat parce qu'il veut que nous soyons tournés vers les autres. Il veut que nous venions aux offices. Nous ne sommes pas ici aux offices pour rester assis seuls dans un coin sans parler à personne. Nous sommes ici aux offices, ce qui nous oblige à interagir avec les autres. Cela nous oblige à découvrir quelles sont les épreuves que traversent les autres dans la vie, et quelles sont leurs joies. Et nous partageons la communion fraternelle, nous tissons des liens, nous grandissons ensemble et nous renforçons nos liens tant les uns avec les autres qu'avec Dieu qui nous a créés, car la communion fraternelle revêt une telle importance. Il ne veut pas que nous allions faire ce qui nous plaît. Il veut que nous soyons ici. Il veut que nous soyons unis. Et d'une certaine manière, tout cela est un acte désintéressé. Nous ne faisons pas cela parce que cela nous plaît. Nous le faisons parce que cela plaît à Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici le jour du sabbat. Et finalement, nous constatons que nous trouvons plus de joie le jour du sabbat que n'importe quel autre jour de la semaine, parce que nous sommes ici avec les frères et sœurs. Nous partageons la communion fraternelle avec eux. Nous pouvons nous reposer. Nous n'avons pas à travailler. Peut-être que je dois le faire si je prépare un sermon, mais là n'est pas la question. J'adore faire cela. Ce n'est pas un travail que de préparer un message qui, je l'espère, sera édifiant pour les frères et vous sera profitable. Si je n'espérais pas que cela vous soit profitable, ce serait très égoïste de ma part. Oh, je dois encore préparer un autre sermon. Je dois remonter à la chaire et m'adresser à nouveau aux frères et sœurs. Non, c'est une joie d'être ici, car j'espère, mes frères et sœurs, que cela vous apporte de la joie. J'espère que vous êtes édifiés par les messages que vous entendez chaque sabbat. Pas seulement les miens, mais ceux de tout le monde. Chaque sermon que vous entendez est là pour vous édifier et vous élever. Nous ne sommes donc pas ici le jour du sabbat pour satisfaire nos propres désirs et trouver de la joie dans notre propre plaisir. Nous sommes ici pour trouver de la joie en menant le mode de vie du don. Ainsi, si nous faisons des sacrifices et que nous sommes ici le jour du sabbat, cela nous procure une grande joie. N'est-ce pas? Le genre de joie que personne ne peut vous enlever. Le genre de joie qui est pleine. Qui est éternelle. Car, mes frères et sœurs, nous allons passer l'éternité ensemble. Ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons. Nous allons nous voir pendant bien plus longtemps encore, ce qui est merveilleux. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Première épître aux Thessaloniciens 2, 19. Car quelle est notre espérance? Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Quelle est notre espérance? Je pourrais dire la même chose. Quelle est mon espérance? Quelle est votre espérance à tous? Ni notre joie, ni la couronne de notre fierté. Quelle est notre espérance? N'êtes-vous pas, vous-même, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Car vous êtes notre gloire et notre joie. Mes frères, c'est vous qui nous apportez la joie. Mais la seule façon d'y parvenir, c'est-à-dire de recevoir véritablement de la joie de la part de tous les frères, c'est de mener personnellement une vie altruiste. Si vous n'êtes pas centré sur vous-même, replié sur vous-même. Si nous adoptons et menons une vie de don, et si nous faisons preuve d'altruisme dans tout ce que nous faisons, nous en tirerons une joie immense. C'est le genre de joie que Paul a connu. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Nous allons en effet avoir un aperçu de la plus grande joie que Jean lui-même n'ait jamais connue. Et vous pouvez la voir aussi. La plus grande joie que Jean ait jamais connue est décrite ici, dans la troisième épître de Jean, chapitre 1, l'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Que fait-il là, avant que nous ne poursuivions notre lecture? Il pense aux frères. Il pense à eux. Il souhaite qu'il soit en bonne santé. Il souhaite qu'il soit proche de Dieu. Il veut qu'il prospère et qu'il soit en bonne santé. Il pense à eux. C'est un acte désintéressé. Verset 3. Car je me suis grandement réjoui lorsque les frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en vous, tout comme vous marchez dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. La plus grande joie que vous et moi puissions avoir est celle que Jean a éprouvée. En regardant autour de nous dans l'Église et en voyant qu'il y a des gens, la promesse que Christ a faite de bâtir son Église et qu'elle ne serait jamais détruite est toujours tenue. Qu'il y a aujourd'hui sur terre des gens qui ont le Saint-Esprit de Dieu et qui sont destinés à la vie éternelle s'ils persévèrent. S'ils ne se laissent pas abattre par les épreuves et les tribulations de ce monde. S'ils ne se laissent pas déstabiliser par tout le bruit et la confusion qui règne autour d'eux. Si nous restons fidèles à la vérité, la plus grande joie que nous puissions avoir est celle-là, Jean a dit mes enfants parce qu'il était un homme âgé. Nous pourrions dire que les frères restent fidèles à la vérité et marchent dans la vérité. C'est la plus grande joie que nous puissions avoir. Regardez autour de nous et nous voir les uns les autres. Mais c'est un acte désintéressé. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. J'ai construit cette grande joie tout seul. Non. C'est penser aux autres. C'est se concentrer sur les autres. C'est ainsi que cette plus grande joie peut nous être donnée. D'accord? Passons au chapitre 4 de la première épître de Pierre. Vous avez le grand privilège de pouvoir travailler au sein de ce que nous appelons l'équipe CI. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a beaucoup de demandes de renseignements sur l'Église. C'est ainsi qu'on les appelle. Des personnes qui contactent l'Église parce qu'elles souhaitent devenir membres. Et tous les ministres de l'Église de Dieu ont travaillé avec elle à un moment ou à un autre. Mais telle qu'elle est structurée actuellement, nous formons une équipe au siège, aux côtés de nombreux frères internationaux qui s'occupent des CI. Les demandes de renseignements sur l'Église, les CI, j'utiliserai donc simplement ce terme. Et nous avons la chance de décrocher le téléphone et d'entendre l'enthousiasme des gens pour la vérité, leur premier amour, si je puis m'exprimer ainsi, pour la toute première fois. Cela m'enthousiasme. Quand je suis au téléphone avec quelqu'un qui est enthousiaste à l'idée d'apprendre la vérité, je n'arrive pas à croire que j'ai été trompé toute ma vie. Je viens d'apprendre ce qu'est le sabbat. Je viens d'apprendre ce que sont les jours saints. Je viens d'apprendre ce qu'est le royaume de Dieu. J'ai appris ce qu'est l'Évangile. La vérité de l'Évangile. J'ai appris ce que sont le ciel et l'enfer. Attendez un instant. Il n'y a pas de diable dans une fosse de là où nous devrions aller demeurer éternellement et nous débattre, et rien de tout cela n'existe. La vérité est bien meilleure. Quand j'écoute et que je travaille avec des informateurs enthousiastes, c'est l'une des plus belles expériences que je puisse vivre. C'est entendre des gens découvrir la vérité, s'en réjouir et éprouver ce premier amour pour la première fois. Nous voici donc au chapitre 4 de la première épître de Pierre. Je parle sans tourner les pages, désolé. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 9. Reprenons au verset 8 avant tout, ayez entre vous un amour fervent, en menant à nouveau une vie de don de soi, d'altruisme, car la charité, l'amour, couvre une multitude de péchés. Et voici le point important. Il est dit, pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence. Nous avons des invités chez nous ce week-end. En tant qu'hôte, je peux accueillir ces invités de deux manières différentes. Je peux les accueillir à contre-cœur ou sans réticence. J'espère qu'ils vous diront que je les ai accueillis sans réticence. Je dis simplement cela comme cela. Je ne l'ai pas fait, vous savez, je leur ai demandé, mais j'espère que ce sera leur réponse. Pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence. On ne peut pas faire preuve d'altruisme de manière égoïste. C'est une réflexion assez curieuse. On peut être altruiste, on peut faire preuve d'hospitalité, mais si on le fait à contre-cœur, on est en réalité égoïste. Cela annule donc tout l'altruisme dont on venait de faire preuve en accueillant ces personnes. Je suppose que je vais inviter ces gens chez moi ce soir. Je n'en ai pas envie. Je vais devoir leur préparer à manger. Je n'ai pas envie de leur préparer à manger. Est-ce que je peux leur offrir un verre? Faut-il leur faire leur lit avant qu'ils n'arrivent? Faut-il laver les draps? C'est de l'hospitalité, mais elle est accompagnée de réticence. Est-ce là la bonne forme d'hospitalité? Vous ne voulez pas accueillir ainsi. Vous ne voulez pas accueillir quelqu'un qui reste planté là, à bouder ou à s'énerver parce que vous êtes là. Non. Pourquoi les accueillir, d'ailleurs? Cela annule tout l'altruisme dont vous avez fait preuve en accueillant cette personne chez vous. C'est pourquoi je dis qu'il est possible d'être altruiste et égoïste en même temps. Nous devons faire preuve d'altruisme en permanence, ce qui implique notamment de ne pas faire preuve de rancœur. Notre attitude lorsque nous faisons preuve d'altruisme est essentielle. Mais cela ne concerne pas seulement l'hospitalité. On ne peut pas sacrifier notre temps ni nos efforts. Si on dit, j'aimerais vraiment t'aider pour quelque chose, ou je vais prier pour toi à ce sujet, ou encore, je vais travailler avec toi, je voudrais que vous ne le disiez pas simplement pour la forme, dans le but de vous dire, ah, je mène une vie de don. Non, si vous dites quelque chose, pensez-le vraiment et vivez-le. Soyez heureux. Soyez heureux de servir. Que ce soit pour déplacer des tables après coup, pour déplacer le pupitre, ou quoi que ce soit d'autre, ne le faites pas à contre-cœur ou par obligation, dit la Bible. Faites-le avec joie. Et si nous avons un état d'esprit désintéressé, un état d'esprit véritablement désintéressé, pas seulement désintéressé, enfin, sans être égoïste ni réticent mais comme le dit de Corinthiens chapitre 9, ouvrons à cette page. Nous pouvons éprouver une joie immense si nous menons une vie désintéressée. 2 Corinthiens 9, verset 6. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, dit ceci, « Mais voici ce que je dis, celui qui s'aime peu moissonnera peu. » Si vous voulez mener une vie de générosité, faites-le. Ne semez pas avec parcimonie, menez une vie de générosité. Vous ne récolterez avec parcimonie que si vous vous contentez de dire, « Oh, je suis trop occupé pour faire cela. Je n'ai pas vraiment envie de servir dans ce domaine. » Non, je veux mener une vie de générosité, et cela signifie que vous semez abondamment. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, non pas à contre-cœur ou par obligation, non pas à contre-cœur, voilà, Cela fait écho à ce que nous venons de lire dans une pierre 4, ne donnez pas par égoïsme ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous pensons souvent à cela dans le contexte des offrandes. Dieu aime celui qui donne avec joie, pas seulement lorsque nous faisons notre offrande lors des jours saints. Il aime celui qui donne avec joie à chaque instant, lorsque nous donnons de notre temps, lorsque nous donnons notre esprit et nos efforts, lorsque nous donnons quoi que ce soit que nous offrons de manière désintéressée aux autres. Il ne veut pas que nous donnions de manière égoïste. Il veut que nous donnions de manière désintéressée et avec joie. Donnez avec joie. Et savez-vous quel effet cela produit? Cela crée un cercle vertueux. Si vous donnez avec joie, si vous êtes, pour ainsi dire, joyeux dans la manière dont vous donnez aux autres, eh bien, vous donnerez de manière désintéressée à ces personnes, et cela vous apportera une grande joie au bout du compte. Ainsi, plus vous donnez avec joie aux autres, plus vous recevrez de joie, et cela vous donnera envie de recommencer et de donner encore plus joyeusement aux autres, ce qui vous rendra encore plus joyeux. C'est un cercle vertueux. Cette joie, vous pouvez donc la ressentir si vous avez déjà bâti sur le contentement, et si vous avez maintenant bâti sur cet altruisme. Plus nous sommes altruistes et plus nous sommes satisfaits, plus nous aurons de joie, une joie durable. Le dernier point est le suivant, dans le chapitre 1 de l'épître de Jacques. Commençons par le début du chapitre, Jacques 1, verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères, considérez comme une joie complète lorsque vous tombez dans diverses épreuves. Je m'arrêterai là. Je pense que je peux, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, et ainsi de suite. Mais concentrons-nous simplement sur le verset 2 « Considérez comme une joie complète lorsque vous tombez dans diverses épreuves. » Je vais dire ceci, et il y a peut-être d'autres versets plus difficiles à mettre en pratique que celui-ci, mais je dirai, ou j'affirmerai, que c'est peut-être le verset le plus difficile, ou l'un des plus difficiles, de la Bible à mettre en œuvre. Combien d'entre nous ont traversé des épreuves? Chacun d'entre nous. Ainsi, lorsque nous traversons des épreuves, Jacques dit, considérez cela comme une joie lorsque vous y êtes confrontés. Attendez un instant. Bon, j'attrape parfois ce qu'on appelle un rhume d'homme, et ce n'est pas agréable. C'est très pénible. C'est pire que les rhumes des femmes. D'accord? Mesdames, vous attrapez des rhumes, mais pas aussi graves que nous, les hommes. Les nôtres sont pires. On appelle cela un rhume d'homme. Du coup, cela m'est déjà arrivé, et ma femme me dit que je gémis à voix haute dans toute la, à orgue, à orgue. Je gémis partout dans la maison. Je ne sais pas si je le fais parce que je me sens vraiment mal. J'ai un rhume d'homme, tu vois. Du coup, je gémis et je me plains partout dans la maison parce que je ne me sens pas bien. Donc, quand je suis malade, ou que je traverse une petite épreuve de santé comme celle-là, c'est une grosse épreuve. Ce n'est pas une petite chose, un rhume d'homme. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas quelque chose à, oui, on ne veut pas de cela. Quand on traverse une épreuve, en particulier une épreuve de santé, ce n'est pas facile d'en voir le côté positif. Ce n'est pas facile quand on souffre. Physiquement parlant, on souffre. Peut-être qu'on a mal au genou, peut-être qu'on a, qui sait? On peut traverser toutes sortes d'épreuves liées à la santé. Mais nous avons tous connu des épreuves de santé, et il est très, très, très difficile de rester lucide, enthousiaste ou heureux face à ce qu'on traverse. Personne ici ne peut dire que c'est facile à vivre, personne. et cela ne se limite pas nécessairement aux épreuves de santé. Cela peut être n'importe quoi. Si vous avez perdu votre emploi, croyez-moi, la dernière chose à laquelle vous allez penser, c'est « Youpi, j'ai hâte d'être au chômage pendant encore 6 mois » ou quelque chose comme cela. Cela ne vous apporte naturellement pas beaucoup de joie. Cela vous apporte de l'angoisse, de la frustration. Peut-être avez-vous un mauvais patron, comme nous en avons parlé plus tôt dans 1 Timothée 6. Cela peut vous causer beaucoup d'angoisse si vous n'êtes pas satisfait. Je le répète donc, c'est pourquoi c'est l'un des versets les plus difficiles à mettre en pratique dans la Bible, celui qui consiste à trouver la joie, à considérer tout cela comme une joie lorsque vous êtes confronté à des épreuves et à des tentations. Ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Alors, comment y parvenir? Comment faire cela, puisque nous sommes censés le faire? Nous sommes censés trouver la joie. Quand je suis en pleine grippe, je suis censé y trouver une joie d'une manière ou d'une autre. C'est très difficile, mais je dois y trouver de la joie. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse. Une page en arrière dans ma Bible. Hébreux 12, verset 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes nous aussi entourés d'une si grande nuée de témoins, maintenant, arrêtons-nous ici un instant. Arrêtons-nous simplement. Laissez-moi réfléchir à cela un instant. La nuée de témoins, ce sont tous les frères qui ont vécu avant nous, les saints de l'Ancien Testament en l'occurrence. Il y a une grande nuée de témoins, des personnes qui ont traversé des épreuves comme vous et moi. Ils ne sont pas différents de nous. Ils ont peut-être connu pire. À bien des égards, ils ont probablement connu pire que nous, car ils ne disposaient pas de toutes les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. L'esclavage était peut-être un mode de vie naturel pour eux, et ils n'y prêtaient pas attention. C'était simplement leur mode de vie. Pendant combien de centaines d'années Israël a-t-il été réduit en esclavage en Égypte? C'était simplement un mode de vie, et ils ont même voulu y retourner parce qu'ils pensaient que la vie dans le désert était de toute façon pire. Alors, continuons notre lecture. Sachez, avant d'aborder ce passage, qu'il y a des centaines, des milliers, voire une multitude de personnes, une nuée de témoins qui ont traversé des épreuves tout comme vous et moi. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés de cette grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau. Mettons ce fardeau de côté. Imaginez que vous ayez une grosse barre sur le dos et que vous fassiez des squats, jetez-la simplement, débarrassez-vous-en. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Or, quand on court, on ne regarde pas souvent ses pieds. C'est très étrange, personne ne fait cela. On regarde devant soi. On peut choisir un point au loin, et c'est vers là qu'on court, parce qu'on ne veut pas, si on regarde ses pieds, on ne sait pas si on court droit ou non. En plus, c'est tout simplement bizarre, ce n'est pas efficace sur le plan mécanique. Donc, quand on court, on regarde devant soi. On choisit un point, et on court vers lui. On ne fixe pas ses pieds. Alors, courons la course qui nous est proposée. Comment faire cela? En regardant devant nous. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, le bûcher, méprisant la honte, et s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne perdiez courage dans vos propres esprits. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Nous sommes donc censés fixer notre regard sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, remarquez bien cela, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, le bûcher. Il courait, à bien des égards, la même course que vous et moi. Il l'a courue à la perfection. Nous, nous ne la courons pas à la perfection. Mais dans la course qu'il menait, il éprouvait de la joie parce qu'il regardait vers l'avant, vers ce qui était son but. Il ne regardait pas ses pieds, pour ainsi dire, ni les épreuves immédiates qui se trouvaient juste devant lui. Il n'a pas laissé ces choses le dissuader, pas même la mort. Il a gardé son regard et son esprit tournés vers l'avant. Il avait une vision. La vision est le troisième point. Si nous voulons avoir de la joie, la plus grande joie que nous puissions avoir ne peut venir, en fin de compte, que si nous conservons cette vision. Si nous nous arrêtons au milieu de la course, nous commençons à regarder nos pieds et à réaliser, oh non, toutes ces épreuves qui m'accablent. Imaginez si Christ avait baissé les yeux vers ses pieds. Imaginez si Christ avait regardé les circonstances qui l'entouraient et avait cessé d'avoir cette vision qu'il avait, cette joie qu'il tirait de la vie éternelle, non seulement pour lui, mais pour nous tous, en nous apportant à toute la vie éternelle. Il n'a jamais cessé d'avoir cette vision. Et cette vision lui a procuré de la joie, dit-on. Fixons les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix en méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie, c'est garder l'esprit fixé sur l'issue de elle. C'est de là que viendra la véritable joie. C'est garder l'esprit concentré sur ce qui est loin devant nous. Si nous nous laissons absorber par ce qui nous entoure, nous devenons myopes. Nous ne voyons plus que ce qui est juste devant nos yeux, les épreuves que nous traversons, ou quoi que ce soit d'autre. Tout d'abord, nous deviendrons alors facilement mécontents, car en nous concentrant sur tout ce qui est négatif, nous ne nous concentrons pas sur ce qui est lointain. Passons donc au chapitre 4 de la première épître de Pierre. Vous pouvez continuer à lire à votre rythme jusqu'au verset 11. C'est pourquoi Paul a poursuivi au chapitre 12, dans l'épître aux Hébreux. Vous n'avez pas besoin d'y revenir, mais je tiens simplement à vous expliquer. Il a ensuite décrit les épreuves de correction qui ont suivi immédiatement. Il dit, quelles que soient les épreuves que vous traversez, qu'il s'agisse d'une correction ou d'épreuves de toutes sortes, quelles que soient les épreuves que vous endurez, gardez les yeux fixés sur l'objectif final, sur la ligne d'arrivée. Et c'est là que réside votre joie. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente qui vous est imposée, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas une chose étrange. Souvenez-vous que nous sommes entourés de cette nuée de témoins qui ont tous traversé des épreuves. Ils ont vécu des choses terribles, probablement bien pires que ce que nous avons à endurer. Beaucoup d'entre eux ont été martyrisés. Beaucoup d'entre eux ont été réduits en esclavage. Beaucoup d'entre eux ont connu toutes sortes d'épreuves que nous n'avons pas à subir. Mais il est dit ici, au verset 12. Ne trouvez pas étrange, lorsque vous traversez ces épreuves, que cela vous arrive comme s'il s'agissait d'une chose inhabituelle, mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous lorsque vous voyez ces joies, ou ces épreuves. C'est ainsi, frères, que nous mettons en pratique l'un des versets les plus difficiles de la Bible, dans le chapitre 1 de l'épître de Jacques, qui dit encore, « Considérez comme une joie complète lorsque vous tombez dans diverses tentations, épreuves et tests. » Considérez cela comme une joie complète. La manière de considérer cela comme une joie complète, c'est de ne pas vous attarder sur les choses qui sont à l'origine de l'épreuve. Vous gardez votre esprit concentré sur ce qui vous attend, le salut, la vie éternelle, ce que Dieu vous a donné, à vous et à moi, et qui est si particulier par rapport au reste de ce monde. Matthieu, chapitre 5, verset 10. Nous allons passer en revue quelques versets puissants supplémentaires qui s'appuient les uns sur les autres. Matthieu, chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux, bien qu'ils soient persécutés. Ils sont persécutés dans cette vie, mais ils obtiennent le royaume des cieux à la fin. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous injurient, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de mon nom. Verset 12. Mais réjouissez-vous et exultez, lorsque vous voyez ces choses. C'est la preuve que Dieu agit avec vous. Et une autre façon de vous réjouir et de vous réjouir grandement, c'est de garder votre esprit concentré sur la récompense. Réjouissez-vous et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. La grande nuée de témoins a elle aussi traversé tout cela. Vous pouvez trouver du réconfort dans le fait que vous ne traversez pas cela seul, ce n'est rien d'étrange. Mais la manière dont ils s'en sont sortis, la manière dont nous pouvons nous en sortir et éprouver une grande joie, c'est en gardant notre esprit concentré sur le salut, le royaume de Dieu, notre récompense ultime. Et pas seulement sur la nôtre, mais si nous voulons être altruistes, en nous concentrant aussi sur la récompense des autres, en contribuant à leur joie. C'est aussi pour cela que les pasteurs sont là, pour contribuer à votre joie. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Peut-être nous sentons-nous parfois ainsi, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Dans la détresse, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Attendez un instant, je m'excuse. Deuxième épître aux Corinthiens, verset 16, je m'excuse. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les petites afflictions que nous traversons dans cette vie ne sont rien comparées à la vie éternelle qui nous est accordée à la fin de cette course. Car nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Si nous voyons les épreuves autour de nous s'accumuler, c'est que nous nous concentrons trop sur celles-ci, nous ne gardons pas notre esprit fixé sur la vision d'ensemble. Et c'est cette vision d'ensemble qui nous permet d'avoir cette joie éternelle. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ésaïe 25. Deux derniers versets. Ésaïe 25, verset 9. Il est question ici du jour du Seigneur. Et l'on dira en ce jour-là, voici, c'est notre Dieu. Nous l'avons attendu, et il nous sauvera. C'est le Seigneur. Nous l'avons attendu, et nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons de son salut. C'est ce qui arrivera à tous, pas seulement à nous, frères, mais il y aura les foules, beaucoup de gens recevront la vie éternelle. La joie vient lorsque nous gardons notre esprit concentré sur la vie éternelle. Et alors que nous arrivons à la fin, revenons au chapitre 1 de la première épître de Pierre, là où nous avons commencé. Chapitre 1 de la première épître de Pierre, mais cette fois-ci, Nous reprendrons au verset 3. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon ses grandes miséricordes, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce que nous allons lire résume les trois grands points que nous avons abordés aujourd'hui. Passons-les en revue avant de poursuivre. Il s'agit du contentement, de l'altruisme et, enfin, de la vision. Toutes ces choses qui nous mènent à cette joie suprême et nous permettent de la connaître. Relisons, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon ses grandes miséricordes, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage incorruptible. Nous gardons notre esprit fixé sur cet héritage. Et qui est sans tache, qui ne se flétrit pas, et qui vous est réservé dans les cieux. Dieu vous a réservé cette place. Le croyez-vous? Gardez-vous votre esprit fixé là-dessus? Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, en vue du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce dont vous vous réjouissez grandement. Frères et sœurs, nous pouvons éprouver une grande joie dès maintenant. Même si, pour un temps, s'il le faut, vous êtes affligés par de multiples épreuves. Les épreuves que nous traversons, si nous les considérons dans la perspective du lointain, si nous trouvons la satisfaction au milieu de ces épreuves, et, frères, si nous faisons preuve d'altruisme face à elles, si nous pensons aux besoins des autres, nous pouvons finalement connaître cette grande joie. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, même s'il est éprouvé par le feu, se révèle en louange, en honneur et en gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. En lui, bien que vous ne le voyiez pas maintenant, vous croyez néanmoins, et vous vous réjouissez d'une joie indicible et glorieuse. Revenons à la question suivante, comment pouvons-nous recevoir cette joie indicible avec laquelle nous avons commencé ce message? C'est un chemin assez simple, mes frères, mais j'espère qu'aujourd'hui nos yeux se sont ouverts comme jamais auparavant. Plus nous apprenons à nous contenter de peu, plus nous abaissons la barre de nos attentes dans la vie. Si nous nous contentons simplement de nourriture et de vêtements, tout ce qui s'ajoute à cela est un bonus, et cela nous procure une grande joie si nous en sommes reconnaissants. Et si nous menons une vie altruiste, même au milieu des épreuves que nous pourrions traverser, mes frères, vous aussi pouvez connaître la joie pleine et entière. Celle que nul ne peut vous enlever. Celle qui dure éternellement. Celle qui est en surabondance, et, mes frères, celle qui est indicible.